à voix nue. Hommage à André Putman, décédé le 19 janvier. Catherine Gell avait rencontré la grande dame du design français en 2002. Ce soir, les premiers pas de Monoprix à Hélène Gray.
Nous retrouvons André Putman. Vous nous avez raconté la fois précédente votre enfance, votre rapport avec ses parents, à la fois silencieux pour une part et fantasque pour une autre part, ce rapport à la musique, à la composition qui vous guide dans un premier temps et que soudainement vous décidez d'arrêter, de même pas de remettre, d'arrêter totalement. J'aurais voulu que nous commencions ce second moment ensemble avec cette idée comme ça du renoncement, ce premier renoncement à réaliser quelque chose qui aurait été un vœu très cher de votre mère. Mais aussi, je pense, avec ce renoncement vient peut-être le temps des rencontres ou des ouvertures. Vous me dites si je me trompe ou si je vais trop loin dans l'interprétation. Et cette idée aussi, finalement, d'une première, peut-être une première rébellion, ou la continuation,
c'est plutôt la continuation d'une
rébellion qui va se métamorphoser en une espèce, moi j'aurais envie de dire, pour la suite de votre parcours d'insolence sereine.
Tout à fait.
Je sais pas si...
Très réussi. Excellente formule.
Excellente
que
formule.
Que je vais vous voler d'ailleurs.
Très bien, sans
insolence
aucun problème.
Insolence sereine, j'adore.
Et qui commence donc par la vie très cassant ou très ferme de Poulenc, qui vous dit donc, on ne sait qu'on est compositeur qu'après 10 ans de réclusion.
J'ai revu plus tard, beaucoup plus tard, il ne m'a pas reconnu, et j'ai pensé que c'était quelqu'un qui avait eu un rôle que je n'avais pas mesuré à l'époque, mais qui m'avait au fond libéré. Parce que je savais que je pouvais faire passer cette affaire sans dommage profond pour ma mère. Parce qu'elle avait compris que j'aimais la vie et que j'étais un animal d'une curiosité incroyablement développée. Et que probablement cette vie véritablement enfermée, un enfermement. Ça me rappelait une chanson de mon enfance, dans une chambre blanche, toute pleine d'amandes, un marteau pour les casser et du pain brioché. Je me voyais avec mes amandes et mon marteau et mon kilo de papier blanc, de papier à musique, et ma gomme. Et en plus, prier de ne plus jouer, parce que...
Quand on est compositeur, on ne joue plus.
On ne joue plus, non. En tout cas, c'était l'attitude du moment. Donc, je sens que ma mère va pouvoir me pardonner. Et elle a pris ça tellement bien et tellement facilement. Et elle a juste émis comme ça des c'est comme des petits cailloux blancs. Elle avait envie qu'on évoque ce que ça allait être à la place, avec quoi j'allais remplacer la musique.
Et saviez-vous à ce moment-là avec quoi vous alliez remplacer la musique?
Mais je ne savais pas. J'annonçais plutôt que j'allais essayer de voir le monde, que j'allais rencontrer du monde, que j'allais sortir des cousins, des cousines, du milieu, de tout ce qui faisait cette sécurité apparente et cette vie paisible comme ça d'enfant privilégié.
Mais qui ne l'était
que je ne voulais plus de tout ça. Et alors il y a eu toutes sortes de tâtonnements. J'ai des carnets qui racontent et contiennent tout ça, mais j'y vais tout doucement avec les carnets. J'ai très très peur de mes carnets.
Et un de vos premiers gestes, je crois, c'est d'aller voir une de vos grand-mères.
Oui.
À qui vous
pour
dites.
Pour lui demander qu'est-ce qu'on fait quand on n'a pas été à l'école et qu'on est musicien et qu'on arrête la musique. Et ma grand-mère, qui était présidente du prix Fémina, et qui était très mondaine et très glaciale, m'a expliqué qu'à part Grouillot, elle ne voyait rien.
C'était une façon de vous mettre à l'épreuve, peut-être.
Mais j'ai fait ce que je voulais faire. J'ai été Grouillot. Et j'ai travaillé dans une rédaction où j'occupais toutes les corvées, toutes les choses, la semence, les courses. Je me glisse dans toutes sortes de choses, j'assiste à des réunions de rédaction où on fait la critique des journaux de la semaine. Il y a une espèce de... C'est un théâtre incroyable. Quand on a aimé Molière, eh bien, on a les Précieuses Ridicules, on a le Malade Imaginaire, on a tout ça.
C'est un théâtre social.
C'est magnifique. Et oui, il y a eu ce déménagement qui m'a fait, dans mes trajets, passer devant le café de Flore tous les
jours.
Alors
ça, c'est quelque chose de très important.
4 fois par jour.
Parce que vous y voyez...
J'y suis allé tous les jours en douce. Je pensais que tout se passait là. Alors il y avait Sartre, il y avait Beauvoir, il y avait Camus, il y avait Giacometti, il y avait Artaud. Il y avait Gréco,
oui.
Il y avait le tabou,
mm-hmm.
Et puis il y avait des masses de gens qui avaient comme ça des visages de gens libres, des visages de gens qui n'étaient pas dans les conventions. C'est tout ce qu'il fallait pour me nourrir à l'époque.
Mais est-ce que c'est le moment, ce moment-là, où vous rencontrez Beckett, justement, Samuel Beckett?
C'est un peu après.
C'est un petit peu après.
Oui. C'était prodigieux de rencontrer avec Beckett, parce que, au fond, la première rencontre, c'était aller voir, en attendant Godot, Première mondiale, Boulevard Raspail.
Qui, à l'époque...
Qui était révolution. Et vous savez, quelques années après, c'est presque... On a beaucoup de mal à le croire aujourd'hui, comme nous l'avons énormément vu, Beckett. Ce qui me frappait énormément chez lui, c'était sa bonté. Parce que c'était un être inouï de fragilité et de délicatesse. C'était la preuve que le génie, la gaieté, l'ironie la plus brillante et la plus distrayante, c'est vraiment... Pour ne pas se gêner pour parler de la distraction, parce que c'est une personne très amusante. Et puis cette élégance suprême. Oui, ça c'était un cadeau, la rencontre avec Beckett. Il y a eu aussi des lectures dans la maison de Ionesco, après avoir été voir les chaises. Alors c'était, je crois, la lecture de « Comment s'en débarrasser ».
Ce sont en même temps des moments qui sont maintenant mythiques, enfin culturellement extrêmement importants, mais qui à l'époque...
C'était tellement familier, tout
voilà,
ça.
Voilà, c'était très confidentiel d'une certaine
oui,
manière.
Oui, mais d'ailleurs, je m'entends être presque timide dans mon récit, parce que c'est comme si j'avais volé ces souvenirs.
Pourquoi voler?
Parce que c'est un miracle... que j'ai connu ces gens et que j'ai aimé autant de choses chez eux, que je puisse en parler, j'ai l'impression que ça ne m'appartient pas du tout et que c'est presque une indiscrétion.
Une énorme curiosité amoureuse presque. Enfin, si
oui,
je puisse...
l'émerveillement, c'est plutôt de l'ordre de l'émerveillement. Il y a eu des gens d'ailleurs que j'ai rencontrés qui m'ont impressionné, mais pas émerveillé. Oui, il y a eu aussi beaucoup d'artistes, beaucoup de peintres. Mais vous savez, ces écrivains-là, ce sont des artistes.
Vous préférez, moi, il me semble, rencontrer des artistes que des intellectuels, je me trompe?
Oh, je me sens plus près des artistes, oui.
Et justement... Ce moment de votre vie, c'est justement le moment de la rencontre avec de nombreux artistes. Finalement,
oui.
vous vous imprégnez, vous entrez dans le monde de l'art contemporain. de cette époque-là.
Oui.
C'est ce qui vous attire et vous intéresse à ce moment-là. Comment, oui. comment le raconter? Je pense que attirer et intéresser n'est pas suffisant.
Oh, ça a commencé très très tôt. J'ai demandé. C'est un des. Ma vie, il y a quelques grandes pages blanches comme ça, où il a fallu écrire des choses nouvelles pour s'en sortir. Alors la page blanche de l'accident, qui eût pu être mortel, tellement il était grave, qui m'a complètement disloqué. Il y a la page blanche de la chambre. Maman, oui. je veux vider ma chambre. Et qu'est-ce que je mets dans cette chambre, finalement? Rien, pour ainsi dire. Une affiche de Miro. Un petit lit en fer, très beau et très dur, et une chaise de Miss Vandero. Voilà.
Joli vidage, si je puis dire. Oui. Manière de d'inaugurer une page oui, de nouveaux signes.
Je trouve ça magnifique, mais c'est pas dans ma vie ni dans mon groupe que j'ai vu ces choses. Je les ai vues parce que j'ai feuilleté des revues, j'étais très très curieuse. J'avais eu un accident émotif très fort avec une petite camarade quand j'avais 6 ans ou 7 ans qui m'avait emmenée. Elle m'avait dit qu'elle n'avait pas de mère et qu'elle était élevée par son père. J'ai jamais compris, j'ai pas osé comprendre si elle avait perdu sa mère ou si sa mère avait fui. N'empêche que j'arrive dans un endroit d'une beauté incroyable. Il y a ce grand, immense géant qui est le père. Et puis il y a la petite Dominique, qui est ma petite camarade. Et j'ai compris seulement il y a 10 ans que cette maison était de Malestéphas. Mais ça a été un émerveillement. Et je me souviens que j'ai décrit cet endroit à ma mère. Des gens qui habitent autrement, voilà.
Parce que votre mère, quand même, vous suit aussi dans toutes ces...
Moi, je lui fais part de tout ce que j'aime constamment. Et plus tard, d'ailleurs, elle accueillera Ionesco, Beckett et tous ces gens avec grâce. D'ailleurs, ils l'ont énormément aimée. Elle a été très gâtée. Et c'est magnifique parce que c'est comme un retour des choses. Elle m'avait...
Nourrie. Et à votre tour,
elle m'a pardonné de ne pas être la grande pianiste qu'elle m'a absolument programmée, comme si elle pouvait en décider toute seule. C'est là que ça fait mal, d'ailleurs, l'histoire. Mmh. Et finalement, je lui amène des gens qui la comprennent, elle, tout de suite, et qu'elle comprend elle-même très facilement, malgré... la trace très profonde de cette éducation conventionnelle et très classique, avec beaucoup d'intérêt pour la littérature. Mais bon, il y avait Taine aussi dans la famille, Hippolyte Taine. Qu'est-ce qu'on a pu nous barber quand nous étions petites, ma sœur et moi, avec l'oncle Taine. Mais maintenant, évidemment, comme on l'a lu et qu'on a été aussi assez impressionnés. Mmh. Mais, si vous voulez, ma mère avait une éducation qui rendait assez miraculeux qu'elle puisse avoir des relations d'amitié très réelles avec des êtres aussi étranges. Les deux étaient d'une grande étrangeté.
Mais c'est peut-être là aussi qu'on peut s'éloigner de l'idée de l'éducation. C'est-à-dire que finalement,
mais heureusement,
il y a
oui.
voilà, les individus, ce qu'on est,
oui.
Sont des choses essentielles. Et oui. quand vous dites que votre mère finalement comprend, alors qu'elle aurait pu ne pas
elle
les
comprend
comprendre,
tout, oui.
Des gens comme
mais
Ionesco.
C'est là qu'elle est une artiste, justement.
Mais c'est là que vous en êtes une un peu
elle
aussi, peut-être.
Elle fait des ponts comme ça entre les...
Parce que vous faire des ponts, c'est quelque chose
oui.
qui vous a passionné toute votre vie, qui
oui.
vous passionne encore.
Hein. Ah, bien sûr, oui.
Donc, j'aimerais justement qu'on évoque maintenant l'aventure qui commence avec Denise Fayol, quand vous la rencontrez,
ah, oui.
qui là encore est une espèce
ça,
de...
Ça a été magnifique, la rencontre avec Denise Fayol.
De jeter un pont, c'est-à-dire après être passé du classique au quelque chose de non conformiste, on va dire, oui, pour l'époque.
Oui. Il s'agit, et puis avec un rêve social.
Et il s'agit d'introduire maintenant ce non conformisme chez tout le monde, oui, dans la vie de tous les jours.
Et arrêter par une action très modeste, mais très puissante financièrement, cette idée que le peuple a mauvais goût et que, évidemment, il faut faire de l'overdose de mauvais goût pour mieux vendre. Parce que plus c'est vulgaire, plus ça plaira. Et ça, c'est des choses qu'on entend. C'est dans la bouche des puissants. C'est repris par des moins puissants qui sont tout simplement des acheteurs. Et je me souviens de la poupée d'Ivan. C'est un animal terrifiant, qui est donc une poupée espagnole, que les concierges posent sur l'oreiller de leur lit, et comme elle a une grande jupe, comme toutes les danseuses espagnoles, et quelques castagnettes quelque part à sa taille, la jupe est remontée, ce qui lui fait une espèce de position de corps allongé sur un rond, un cercle qui est la jupe. Et quand j'ai vu que nous étions parvenus à supprimer la poupée de Divan, eh bien, c'était un stade déjà très satisfaisant. Alors, mais il fallait la remplacer.
Alors avant de remplacer la poupée, comment rencontrez-vous Denise Fayol
Denise Fayol dirigeait donc le style Prise d'Unique. C'était le début. Elle
nous
avait déjà brillamment réussi.
Je crois, quand vous la
c'était
rencontrez.
À peu près,
hein,
oui,
nous ça. C'est à peu près ça.
Et elle a une sorte de pouvoir, on lui donne le pouvoir. Elle a probablement un temps limité, peut-être, ça, j'en sais rien, mais elle vit dangereusement et elle est éblouissante, pour introduire la beauté, le respect qui l'accompagne, dans des produits absolument courants. Alors, elle a déjà fait des tas de choses et elle a le pouvoir, et un garçon que j'aime beaucoup, un artiste, qui faisait mon portrait à l'époque, me dit, je sais que tu cherches quelque chose d'aventureux et de courageux, et j'ai quelqu'un à te présenter, parce qu'elle cherche du monde pour courir le monde, ramener des idées, il me semble que tu... Alors habille-toi comme aujourd'hui, parce que... Alors je crois que je porte une casquette avec la
visière derrière,
Dans
la nuque.
Reste comme ça, parce que t'es trop drôle comme ça. Elle va comprendre pourquoi je t'envoie. Et alors je lui ai dit que j'étais ignorant, que je ne connaissais que la musique, que j'avais été un peu traînée dans les rédactions pour voir des choses... parisienne et raffinée. Alors, quand elle a entendu cette liste, elle a dit « Mais vous êtes littéralement la personne que je cherche. Et d'ailleurs, vous partez pour Londres demain. »
Joli début.
Trop beau.
En fait, le bureau de Denise Fayol et Maïmé Arnaudin, c'est Mafia. Mafia avait été un des premiers endroits où l'on revendiquait aussi un certain style.
Mais comment ?
Et vous aviez commencé déjà cette recherche du style. L'épisode de la chambre en est aussi une illustration, d'une certaine manière.
Une pulsion, comme ça.
Voilà.
Comme une purification. C'est très, très drôle. Le luxe un peu pompeux était pour moi une chose très polluante et qui faisait un peu horreur. Et au fond, je m'intéressais à l'essentiel, je m'intéressais à l'idée de la charpente, l'idée de la colonne vertébrale des choses. J'avais envie de retrouver quelque chose de solide. Et c'est probablement qu'il y a une identification, j'y pense pour la première fois, entre ces gens qui ont eu tellement de mal à être acceptés, qui ont souffert, et moi qui me suis senti mal et qui devais absolument sortir des terrains balisés, qui sont les chemins conseillés, il fallait que je jette tout ça par la fenêtre. Je pouvais pas accepter tout ça. Alors, je me suis senti très ému par ces créateurs incompris. Quand je pense que Pierre Charot a fait une maison et demie, enfin, il en a fait une petite en Amérique qui a été détruite, démolie, on l'a démolie il n'y a pas longtemps.
Et ça vous dit...
Charot, c'est quand même quelqu'un qui a osé...
C'est incroyable, oui.
...faire des choses inouïes et qui n'était pas du tout... Moi, j'aime pas les gens qui sont prisonniers. Par exemple, s'ils sont austères, ils sont prisonniers au point qu'ils doivent être austères dans tous les domaines de leur vie. C'est une chose qui m'attriste énormément. Par exemple, Beckett, il avait 10 smokings dans son placard. Il faut croire qu'il avait énormément la nouba, qu'il s'était beaucoup, beaucoup amusé. Pourquoi pas, je veux dire. Ça me plaît toujours beaucoup, les gens qui ont payé très cher, parce que c'est toujours très cher. Leur courage, leur audace, leur invention, et qui, en fait, ont aussi, un peu comme on a des objets bizarres chez soi qu'on ne pourrait pas expliquer, mais qu'on aime, qu'on chérit, parce qu'ils ont créé des romans dans votre tête, eh bien, que chacun ait ses fautes de goût, ses dérapages, ses enfantillages, c'est très important pour moi. Je trouve ça extrêmement attachant et je trouve quasiment louche les gens qui ont comme ça une image de perfection absolue. J'ai l'impression peut-être que j'ai risqué de donner cette impression et que j'accumule les preuves que je ne fais pas partie de cette catégorie et qu'en fait je suis entouré d'objets infantiles, d'objets trouvés, de choses dont j'imagine qu'elles portent bonheur, d'un petit musée d'horribles petits objets qui me font tous rire, que j'ai mis dans une boîte en verre et que je regarde de temps en temps, et qui font pas rire que moi d'ailleurs, mais qui sont qui n'ont rien à voir avec l'idée de beauté.
Et alors finalement...
Moi j'ai beaucoup dérapé, hein, je tiens à le raconter parce que...
Oui, et justement, ce qui me vient à l'esprit quand je vous entends dire ça, c'est savoir si justement ces chaises faites de sandaux au départ, si justement c'est pas l'idée comme ça d'imposer ces dérapages aux gens ou de dire mais regardez aussi...
Oui, parce mais il y a une intelligence d'usage qui est tellement...
La fonction qui est extraordinaire.
Trouvaille comme ça. Et puis, au fond, il y a un mot qu'on n'a pas encore prononcé et qui est la clé de toutes les vies, c'est est-ce qu'on a de la liberté ? Est-ce qu'on est prisonnier de ce que les autres pensent ? Est-ce qu'on s'applique à être dans un moule ? Est-ce qu'on meurt de peur de choquer ?
Vous mouriez de peur de choquer ou c'était pas quelque chose au contraire ?
Non, je me sentais très provocatrice. Et ma mère jouait avec le feu, hein, elle était limite.
Elle avait bien éduqué aussi, en ce sens-là, les sens et les sensibilités.
C'est ça qui est tellement curieux dans cette famille, c'est le mélange d'amour, d'insolence, d'abandon, de liberté. On avait tous notre liberté, c'est peut-être ça qui a rendu les choses compliquées, mais évidemment, elle n'est jamais complète. Et il y a évidemment, comme dans toutes les familles, des ronces de névrose qui piquent toute votre vie.
Alors, quand vous parlez de complications, j'aimerais savoir ce que suggère comme complication le fait de se dire, eh bien justement, ces gens méconnus, ces artistes de la structure, hein, qu'ont été Charot, Mallet Stevens, de la sophistication aussi, quand on voit le travail d'Ellingré, qui a vraiment les deux choses.
C'est vraiment un bon mot pour elle, oui.
Quelle complication cela suggère de se dire, eh ben finalement, je veux à nouveau qu'on les regarde et qu'on les comprenne.
J'ai pas du tout compris ce que j'allais réussir. Ça m'aurait probablement tellement intimidé que j'aurais raté, du coup. Mais en me passionnant pour ces gens sur lesquels j'avais une quantité de renseignements, extraordinairement parlant et significatif, je disais volontiers, paraît-il, on me l'a rappelé encore très récemment, si j'intéresse au moins 10 personnes, j'aurai accompli quelque chose qui va me porter toute ma vie. Et quand je pense que 8 ou 9 ans plus tard, il y avait 40 faussaires différents pour faire des malaisés.
Enfin, les chaises de métal.
Oui, et qu'il y avait une véritable invasion dans la presse de ces noms. ça me met dans un état de joie. Alors là, c'est incroyable parce que on peut pas dire on a été bon ou on a été généreux, mais on a eu la chance de présenter tout ça exactement au moment
où
il y avait comme un vide, il y avait un vide. Et ça a été le début, ça a été la petite graine qui a tout déclenché.
C'était à voix nue, hommage à André Putman, décédé le 19 janvier et que Catherine Gell avait rencontré en 2002. Réalisation Christine Berlamont, coordination Sandrine Trainer. Cette émission reste écoutable en ligne pendant une durée de 1000 jours et podcastable pendant un an sur franceculture.fr. Vous retrouverez demain la suite de cette rencontre de Catherine Gell avec André Putman.